Ce matin même, j'avais le bonheur de voir une affiche de quelqu'un qui avait mis devant lui un slogan. Et ce slogan, c'était pas de directive, mais des directions. C'est un peu le sens quand même de l'interculturel. L'interculturel, pour Michel et moi, c'est la possibilité de créer ensemble des espaces partagés et non pas de donner un sens, mais de recevoir un sens et de co-construire les éléments du sens. Alors en matière d'interculturel, peut-être un premier mot, quand on évoque Michel et moi la culture, nous en proposons une première définition. Pour nous, c'est l'élément appris du comportement humain. L'élément appris du comportement humain. Nous savons bien qu'il y a des centaines et des centaines de définitions, mais nous insistons sur cet élément appris du comportement humain pour bien souligner le fait que nous portons toutes et tous un bagage culturel, au pluriel, qui nous façonne dès notre plus jeune âge, à travers des institutions. La famille, l'école, l'État, l'Église, l'entreprise, les organisations, publiques ou privées. Et donc l'interculturel, pour nous, c'est un parti pris, celui de la relation, mais plus encore de la rencontre. Et ça, c'est un premier point, une première conviction que nous aimerions partager. L'interculturel, ce n'est pas simplement l'analyse en observateur des relations, c'est la possibilité féconde d'une rencontre. Une rencontre, c'est d'abord une posture d'accueil à l'inconnu. Un rendez-vous, ça se pose dans un agenda et on peut l'écarter. Non, une rencontre, c'est d'abord une possibilité de surgissement, d'imprévu. Là, c'est le premier point. L'interculturalité pour nous, c'est la construction de conditions de rencontre où on se transforme opportunément au contact des autres. Alors là, la première conviction, c'est que l'interculturel, ce n'est pas une approche ni monoculturelle ni multiculturelle. Alors, il faut en dire un peu plus. Dans une approche monoculturelle, on veut absolument en fait que l'autre nous ressemble parce qu'on est convaincu de porter le bon modèle, d'être l'horizon incontournable qui éclaire nos ciels et nos univers. Dans une approche monoculturelle, Michel et moi, nous le soulignons souvent, le verbe fort, c'est « j'assimile »,« assimiler ». Je te transforme en chose, toi le jeune et moi l'ancien, toi la filiale d'une entreprise et moi le siège, toi la petite région de notre pays et moi la capitale. Je te transforme en chose et la chose, c'est moi. Je sais d'ailleurs et je suis convaincu d'être à l'avance le bon modèle et que d'une certaine manière, tu puisses accéder à la chance que nous avons de pouvoir être ce que nous sommes. Il y a un deuxième mode de traitement des différences, non pas monoculturel où j'assimile, mais multiculturel. Et là, le verbe fort, c'est coexister. Là, nous utiliserions peut-être le mot de diversité, le caractère pluriel de nos coexistences. On ne se connaît pas forcément dans nos trajectoires de vie. On ne veut pas forcément créer entre nous des rencontres. Mais on est là, sur un territoire, dans une ville. Et parfois, on est ordonné par la chose publique autour de communautés et qui vont, d'une certaine manière, définir des quartiers. On partage la même monnaie, on partage le même drapeau, mais on ne partage pas la même langue. La première approche monoculturelle dans l'histoire est peut-être plus liée à des traditions latines, la seconde est peut-être plus liée à des traditions anglo-saxonnes, et on va mettre des S à tout ça. C'est notre première conviction, une approche interculturelle, elle n'est pas mono, elle n'est pas multi, elle est inter, et inter, le verbe fort, c'est l'intégration. Nous citons souvent cette formule que nous trouvons belle avec Michel, l'important n'est pas d'ouvrir les autres à la raison, l'important est de s'ouvrir soi-même, patiemment, aux bonnes raisons des autres. Changer en échangeant, sans se perdre ni se dénaturer. Changer en échangeant, sans se perdre ni se dénaturer. Ces deux citations, nous les devons à Claude Lévi-Strauss pour la première, à 99 ans, le talent n'a pas d'âge, et à Édouard Glissant pour la seconde, dans son merveilleux livre « Philosophie de la relation ». Notre deuxième conviction, c'est que Et pour nous, c'est notre seconde conviction, la posture qui nous semble préférable. Bon, d'abord, je vais utiliser les mots de Michel et de Martin, Vielajus. C'est une posture d'intelligence de l'autre, l'expression est magnifique. Et je vais le dire de façon peut-être moins poétique, c'est une posture d'étonnement volontaire. Et pour Michel et moi, il y a trois dimensions. La première, c'est une nécessaire suspension de jugement, se hâter de ne pas juger trop vite, pouvoir au cours d'un entretien de recrutement, quand on est face à des candidates, à des candidats, pendant 10 minutes, pouvoir essayer en fait de se demander ce qu'il s'opère entre la candidate ou le candidat et moi, et ne pas confirmer mais explorer. Ça, c'est la suspension de jugement. Et puis, ce n'est pas suffisant, suspendre son jugement, parce que respecter, ce n'est pas reconnaître. La deuxième chose, c'est distancier son regard. En matière d'interculturel, toutes celles et ceux qui veulent construire des collectifs, édifier des équipes, sont des personnes que nous invitons à créer des espaces de parole autour d'eux pour s'entendre dire des choses utiles sur eux qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Ce que nous appelons depuis longtemps avec Michel des espaces apprenants. Créer autour de soi des espaces de parole pour s'entendre dire des choses utiles sur soi. Il faut donc avoir une capacité à encaisser des choses qui peuvent être directes et qui vont nous faire grandir. Puis la troisième chose, c'est tenter d'expliquer comment on a l'impression de fonctionner sur le plan culturel, depuis notre naissance, notre adolescence, les jeunes années d'adulte et jusqu'à aujourd'hui. Dernier point, pour nous, en fait, quand on traite d'interculturel, on doit marier, pas pour les fusionner, mais pour les distinguer, la lutte contre les discriminations. Pour nous, cette dimension fait partie du champ interculturel. Traiter favorablement un individu en situation comparable en raison de critères prohibés par la loi. Ne pas mettre quelqu'un tout de suite de côté parce que son genre, son adresse postale, sa couleur de peau, sa supposée trajectoire de vie nous indispose. La lutte contre les discriminations fait pour nous partie de l'interculturel. La gestion de la diversité est évidemment un horizon à analyser, la performance des équipes diversifiées. Et puis, un autre chemin que nous tentons d'arpenter depuis longtemps avec Michel, c'est celui de l'entreprise apprenante. Voilà ces deux premières convictions. Et sans attendre, Michel, je suis heureux de te passer le relais pour pouvoir partager avec toi une troisième conviction.
Merci beaucoup, Philippe. C'était très clair et je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit. Alors, on a une conviction tous les deux aussi, c'est qu'il y a des risques d'impasse pour l'interculturel qui sont l'excès de relativisme, l'excès d'universalisme et l'excès de culturalisme. Je m'explique. Bon, le relativisme, on ne va pas trop insister là-dessus parce que vous connaissez cette idée que tout se vaut, que toutes les cultures se valent, que on n'a pas à les hiérarchiser. Cette idée que beaucoup développée par Huntington, qui a été très critiquée, à juste titre d'ailleurs, que les différences entre les cultures sont irréductibles, que les cultures forment des entités séparées, dont les limites sont tout à fait clairement identifiables, ce qui est absolument faux. Cette idée que le monde est divisé en aires culturelles qui ne se mélangent pas, évidemment, c'est un excès dangereux. Et erroné. Ensuite, il y a l'excès d'universalisme. Alors, l'universalisme, pour nous, en tout cas pour nous, Français ou Européens, c'est un credo. C'est le credo d'un certain nombre de valeurs issues du siècle des Lumières auxquelles nous croyons et auxquelles nous croyons tellement fort que parfois nous voulons l'imposer à tout le monde. C'est le danger de l'ethnocentrisme que le regretté sociologue Tsétan Todorov définissait comme tout ce qui consiste à ériger de manière indue les valeurs propres à la société à laquelle nous appartenons en valeurs universelles. C'est l'idée, et beaucoup d'Africains et d'Asiatiques aujourd'hui ne se privent pas de nous reprocher ça en nous disant « écoutez, vous avez une vision qui est liée à votre histoire, etc. » a aussi une tradition très, très individualiste, eh bien, nous, ce n'est pas tout à fait la même chose. Puis en même temps, même si On dit que, Philippe et moi, qu'il faut se méfier d'un excès d'universalisme. Il y a des luttes qui doivent être menées. Je pense à l'abolition de la peine de mort, à la lutte contre l'excision, à toutes les luttes pour les dignités des femmes, à ce que disait tout à l'heure Philippe sur les discriminations, notamment par exemple les discriminations homophobes. Ça, ce sont des choses pour lesquelles nous avons tous envie de lutter et de faire avancer la société. Comment on fait? Comment on fait quand on se heurte tellement souvent à des arguments relativistes pour le coup, du type c'est notre culture, c'est notre religion, qu'est-ce que vous voulez faire? Ça, c'est un défi que beaucoup d'ONG aujourd'hui, d'organisations non gouvernementales, d'associations, de solidarité, un défi auquel se heurtent ces entités qui tentent de pratiquer ce qu'ils appellent la négociation socioculturelle. Au fond, comment est-ce qu'on entre en dialogue? Comment est-ce qu'on évite de rejeter systématiquement d'un revers de la main ce qui nous va pas? Comment est-ce qu'on arrive, et ça c'est une difficulté à mon avis très forte dans la société française aujourd'hui, à distinguer l'essentiel de l'accessoire? Comment est-ce qu'on évalue, au fond, la validité de nos propres curseurs, de l'acceptable et du non acceptable? Comment, sans abdiquer nos propres valeurs et sans mettre l'autre sur un piédestal, comment pouvons-nous trouver des terrains d'entente? Et le troisième excès, c'est l'excès du culturalisme. Pas du culturisme, mais ça c'est du culturalisme. La culture explique tout. Cette idée que la culture explique tout, tout s'explique par la culture, et bon, et les rapports de force, les rapports économiques, etc., ça compte pas par rapport à l'importance de la culture. Alors, j'imagine que les uns et les autres, qu'aucun d'entre vous n'a jamais fait cette expérience du pliage des draps. Vous sortez d'un drap de votre machine à laver. Alors, je sors un drap de ma machine à laver ma femme me demande de plier ce drap avec elle. Donc, on est tous les deux d'un côté du drap. On s'efforce de faire les bons gestes. On a nos évidences pour chacun. Sauf que entre nous deux, les évidences ne sont pas les mêmes. L'un tourne le drap à gauche, l'autre, c'est évident qu'il faut le tourner à droite. Alors, on réessaye, on n'est pas toujours en phase, on n'arrive pas à communiquer. Alors, on s'impatiente, on s'énerve, et puis parfois, l'un des deux décide de faire ça tout seul, et ça marche beaucoup mieux, assez paradoxalement. Alors, pour moi, il y a là une métaphore très éloquente de la relation interculturelle quand elle pose problème. Tout y est. L'impression que l'autre est maladroit, qu'il est incapable ou complètement idiot. La patience, la montée au créneau, la difficulté de communiquer et puis parfois la renonciation au dialogue et à l'action commune. Mais surtout, à mon avis, ce que montre cette image, c'est l'illusion du culturalisme. C'est le fait que, au fond, l'incompréhension, elle ne vient pas forcément du fait qu'on soit d'origine géographique différente, de métiers différents, d'institutions différentes, de générations différentes, d'origine sociale ou de religion différente. Entre deux personnes extrêmement proches et extrêmement semblables, d'une certaine manière, sauf en termes de sexe, bien entendu, puisque là je vous parle du pliage des draps avec ma femme, mais enfin, entre des gens qui sont extrêmement proches, eh bien, il peut y avoir des malentendus, d'ordre culturel peut-être, mais qui viennent souvent simplement du fait que dans une même culture, l'autre n'est pas nous. Et ça, je crois que c'est. Donc, alors, vous allez me dire, mais enfin, si c'est déjà si difficile de se comprendre et de s'entendre entre mari et femme, combien plus quand on essaye de s'entendre entre Chilien et Gabonais? Enfin, c'est. Voilà, certes. Et le culturalisme, je termine là-dessus pour le culturalisme, c'est cette fameuse affaire d'alibi culturel. Si je commence à me disputer avec quelqu'un qui est asiatique ou qui n'a pas le même métier que moi, on va dire évidemment, ils n'ont pas la même culture, ils ne sont pas du même coin, ils n'ont pas le même métier. Ça, c'est trop facile, cet alibi, parce que ce n'est pas comme ça que la société fonctionne. Ensuite, quatrième conviction, l'interculturel, et je reprends mon exemple du drap, quand même, il nous aide à prendre conscience que nos évidences ne sont pas celles des autres. Il remet en cause un certain nombre de nos modèles mentaux dans beaucoup de domaines. Je donne quelques exemples. Le rapport au temps. Hein, est-ce que nous sommes dans des cultures géographiques ou professionnelles qui sont plutôt polychrones ou plutôt monochrones, plutôt une petite chose à la fois, plutôt une chose après l'autre? Ça va évidemment dépendre notamment des métiers, notamment de, mais pas toujours. Est-ce que nous sommes dans des cultures de la progression, des cultures plutôt linéaires, avec cette idée que ben, on n'a qu'une vie, il faut la réussir, il faut toujours être dans la progression, ou bien dans des cultures plutôt cycliques, les cultures du renouvellement, où au fond on a peut-être un petit peu moins peur de l'échec parce que tout se renouvelle. Est-ce que en tant que Français, moi bon, j'arrive dans une réunion qui dure 2 heures, mon réflexe c'est plutôt de dire bonjour rapidement à tout le monde, d'ouvrir mes dossiers, de commencer par le plus urgent, ce que j'estime le plus important. Puis je vois des visages effarés de gens d'autres cultures, africaines ou asiatiques par exemple. Ils disent, mais enfin, on est des êtres humains, il faut quand même qu'on se connaisse un tout petit peu avant de bosser. Et puis voilà, donc il y a une espèce de protocole langagier par lequel on va peut-être parler de la pluie, du beau temps, etc. Mais qui va amener ensuite à rentrer dans le sujet, mais pas par le plus important, parce qu'on garde le plus important à la fin. Alors vous imaginez un petit peu le genre de malentendu que ça peut. Ça peut causer. Le rapport culturel à l'espace aussi est un autre exemple. Qu'est-ce que c'est que pour les uns et les autres, le proche et le lointain, le vide ou le plein, c'est quoi les bulles que nous constituons autour de nous pour mettre un petit peu de distance par rapport à l'autre, ou bien au contraire la réduire? Est-ce que on est à l'aise dans certaines manières du hug américain ou brésilien, ou bien est-ce qu'on est plutôt à l'allemande, alors là c'est vraiment des gros stéréotypes, mais plutôt on se touche pas trop, on s'approche pas trop. Rapport à l'espace, le rapport au statut social aussi est un autre exemple. Qu'est-ce qui donne du prestige ici ou là? Est-ce qu'on est dans des sociétés plutôt de ce qu'on appelle le statut conquis, c'est-à-dire les achieving societies, dans lesquelles au fond le statut on l'a parce qu'on a bossé avant, parce qu'on a réalisé? Ou est-ce qu'on est dans des cultures de statut, plutôt de statut hérité, comme beaucoup la France, où l'importance de l'origine sociale, l'importance des diplômes, alors les diplômes c'est extraordinaire, vous avez la chance d'être élevé dans un milieu assez favorable qui vous aide à faire des études plutôt brillantes, vous rentrez à l'ENA, l'ENA n'existe plus, mais enfin il y a d'autres structures de ce genre-là, et à 21 ans vous êtes diplômé, vous êtes à la tête d'une équipe éventuellement énorme. Donc voilà, ça, c'est le diplôme. C'est quoi ton diplôme? Alors que mes amis américains m'ont toujours dit, moi quand je vois un curriculum vitae, je regarde d'abord ce que la personne a fait au cours des 5 dernières années, puis ensuite je vais sur ses diplômes. Le rapport au le statut de l'âge aussi, bien entendu. Le rapport au désaccord et au conflit. Hein, c'est quoi le sens que nous mettons derrière un oui ou derrière un non? Ça veut dire quoi un oui? Ça veut dire je suis d'accord avec toi? Ou ça veut dire, ben, j'ai compris ce que tu m'as dit, voilà, je vais y réfléchir, ou je vais éventuellement en reparler avec ma communauté, et puis je reviens à toi après. Ça veut dire aussi, tu veux ton oui, tu as ton oui, et tu me lâches les baskets, ça peut vouloir dire ça aussi. Est-ce que nous sommes dans une culture plutôt de l'affrontement? Ça, on adore ça, l'affrontement, hein, en France en général. Ou bien plutôt de recherche de consensus, ou d'évitement à l'asiatique? Qui est une autre manière d'affronter le conflit, qui est peut-être plus efficace, parce qu'on utilise la force agressive du partenaire à son propre bénéfice. À qui est-ce que nous acceptons d'obéir? Alors, il y a tout un tas d'exemples comme ça qu'on pourrait donner, mais ce que ça montre, et qu'on a donné notamment assez largement avec Philippe dans le livre L'archipel humain, mais ce que ça montre tout ça, c'est qu'en fait, nous participons, volontairement ou non, d'ailleurs parfois involontairement, de plusieurs mondes. Hein, nous sommes à la charnière, nous sommes à la charnière d'univers de sens nombreux et différents. Et en fait, on s'aperçoit que tout le monde, tout simplement, tout bêtement, ne met pas du tout le même sens derrière des mots qui pour nous sont évidents. Hein, mettre des sens radicalement contraires à ce que nous y mettons. Et que non, décidément, nous n'avons pas les mêmes évidences, ce qui ne nous empêche pas forcément, d'ailleurs, de nous comprendre et de travailler ensemble. Et là, on arrive à ce que, Philippe, tu vas nous développer sur l'hybride et l'archipel, et bien c'est pas une autre notion qui montre que c'est compliqué, mais qu'on peut travailler ensemble.
L'interculturel, pour nous, doit être de plus en plus une réflexion sur le fragment, sur l'hybride, sur le métissage, sur les écarts, sur le bricolage et le bricolage des identités. Alors ça, c'est peut-être quelque chose qui nous rassemble avec un certain nombre d'interculturalistes. On pourrait dire qu'à grands traits, dans le champ francophone, il y a eu un premier temps qui a été un temps de révélation, celui des écrits comparatistes de grandes figures comme Gerd Hofstede ou Fons Trentenars. Et là, l'essentiel n'était pas seulement de comparer, mais c'était une invitation à comprendre. Ce premier temps comparatiste, il est fondamental. Et puis, dans le champ francophone, il y a pour nous un deuxième temps. C'est celui des écrits de Philippe Diribarne à travers son laboratoire « Gestion et société » et de figures très importantes comme Sylvie Chevrier, comme Ella Yousfi, Jean-Pierre Segal. Un certain nombre d'auteurs qui vont s'attacher à une lecture plutôt socio-historique et regarder en fait quels sont pour chacun des peuples les grands périls. Par exemple, en France, la grande crainte, ce serait perdre son statut. Le grand danger, c'est de déchoir. Et à ce moment-là, on voit ses amitiés se fissurer et sa vie s'étioler. Alors ça, cette deuxième grille de lecture ethnographique, elle nous semble absolument essentielle. Et avec Michel, nous privilégions toujours le « et » par rapport au « ou » qui, d'une certaine manière, différencie. Et puis, nous nous sentons avec Michel peut-être partie prenante d'un troisième temps. Des gens comme Eval Moutabazi, comme Jean-François Chanla, comme Esna Caillot, comme Dominique Ray, comme Vincent Maire, comme un grand nombre d'amis. C'est le temps peut-être de l'association des cultures, entités collectives, qui répondent à la question du « que sommes-nous » au « qui sommes-nous ». Ce temps de passage des cultures aux identités, sans éliminer aucun des termes. Et donc ça, c'est ce que nous avons voulu faire depuis quelques années avec Michel. Notre approche, c'est une approche qui va s'attacher en même temps aux cultures, dimensions collectives et aux identités. Partant d'un constat simple, je suis toujours plus que ce que tu me dis que je suis. Il y a ce que je revendique subjectivement et qui est lié à ma vie, au mécanisme d'autocensure, à mes ancres de vie, ce qui me mène à un moment donné à rester au port alors que j'ai toutes les compétences pour partir en voyage. Ça, c'est la question des identités et de l'émancipation. Elle est absolument essentielle, on doit l'explorer davantage. Et puis, il y a évidemment tout ce que les grands auteurs, des comparaisons nationales, régionales, nous disent. Et nous, nous sommes pour, avec d'autres, comme Dominique Desjeux, pour associer en fait les deux dimensions. Il est temps en fait de prendre au sérieux que dans l'interaction, l'identité peut être non seulement un code de communication, mais elle est aussi une compétence. Et à un moment donné, un expatrié, quelqu'un qui franchit une frontière, un migrant, une personne exilée, la première personne qui intègre une structure de pouvoir alors qu'autour d'elle, elle a le sentiment d'être entourée d'inconnus. Il est temps de prendre au sérieux l'idée que des éléments de culture peuvent être des éléments qu'on manipule en situation pour conquérir du pouvoir. On va renforcer un accent, on va porter un vêtement, on va s'attacher à utiliser deux ou trois mots supposés caractéristiques du pays de l'interlocuteur. Et avec Michel, là, et avec d'autres, nous avons cité Margali Cohen-Emerick, mais il convient aussi de citer dans la tradition francophone Carmel Camilleri et leur formidable livre « Stratégies identitaires ». À un moment donné, l'interculturel doit davantage se saisir, selon nous, de cette question en fait de la manipulation dans l'interaction des éléments de culture. Et donc, ça nous a amené, dans nos travaux récents et notamment dans ces deux derniers livres, à nous intéresser davantage aux horizons philosophiques. Nous avons voulu en fait donner peut-être un peu plus de supplément d'âme à une tradition gestionnaire. Et nous nous sommes tournés Édouard Glissant, à travers sa figure d'archipel. Considérer en fait le monde en archipel, c'est accepter en fait que le principe d'unification n'est pas donné à l'avance. Nous ne connaissons pas à l'avance la nature de la gare d'arrivée. Nous vivons un voyage. Parler d'archipel, c'est donc s'intéresser à l'inattendu, à l'incomplétude, aux effets de catastrophe, si je reprends l'expression du mathématicien René Thom. Parler d'archipel, c'est passer dans notre société, et tenter de le comprendre, d'une société hiérarchique pyramidale où l'on assimile, monoculturelle, où l'autorité vient nécessairement du haut vers le bas, à une interrogation qui balaye l'idée de centre et admet qu'il y a aujourd'hui une prolifération des cadres culturels de référence. Nous sommes tous à l'intérieur de nous-mêmes, des êtres qui vivent une étrange étrangeté. Nous sommes tous à l'intérieur de nous-mêmes en situation de rivalité des référentiels de sens, de communication imparfaite de ce qui dialogue en nous. Et donc la figure de l'archipel, en fait, elle ouvre pour nous, et vous le découvrirez certainement dans nos ouvrages, à la notion de tribu, à la notion de communauté d'appartenance. Dans l'archipel, on fait des sauts, des ponts, des liens et des correspondances entre les mondes. Et on accepte vraiment de revendiquer qu'on est plus que ce que tu crois que je suis. Donc ça, c'est la première notion qui nous a semblé importante. Et puis là, pour en prendre une deuxième, et ces notions viennent de la philosophie des devenirs. Des personnes importantes comme Gilles Deleuze, comme Félix Guattari, comme Édouard Glissant. Et justement, avec Édouard Glissant, la notion de créolisation. La créolisation, c'est le refus de la racine unique. C'est pour nous, c'est une conviction, Michel et moi, ce ne sont jamais deux cultures qui se rencontrent ou se confrontent, jamais, dans aucune situation humaine, mais toujours plusieurs, qui répondent donc à des circonstances neuves de la vie. Et donc nous vivons dans un énorme collage, pour reprendre les termes de Geertz, nous vivons dans un énorme collage. La créolisation n'est pas une fusion. Elle requiert que chaque composante persiste, alors que chaque composante a déjà changé dans l'interaction. Et pour, en quelque sorte, je dirais, marquer une première étape de ces cinq convictions, on pourrait dire que l'interculturel, c'est un travail d'analyse à la fois des cultures collectives, comme instance de socialisation ou d'adhérence, Michel y reviendra tout à l'heure, la culture, la liberté de l'acteur. À un moment donné, je suis peut-être capable, dans des rencontres, d'aller au-delà, en fait, de mes conditionnements, de ne pas être tout entier déterminé par ce que les autres disent de moi. Ça, c'est le deuxième effet. C'est un effet de liberté de l'acteur. Et puis l'interculturel, et il nous semble avec Michel qu'il convient de développer les enquêtes, multiplier les analyses en ce sens, c'est un effet de situation. Et en cela, la créolisation est intéressante. Car elle nous amène à voir en fait le lieu non pas comme un territoire, mais comme une terre que l'on partage. Nos sociétés sont des sociétés de remise en cause assez puissante d'un modèle traditionnel familial, dit nucléaire, dans lequel, depuis, et notamment dans les grandes villes, nous voyons la montée en puissance des séparations, des recompositions, des familles monoparentales, de la présence des grands-parents, de grands-parents, et on va faire preuve ce soir d'optimisme de combat, aimants, attentifs. Et tout d'un coup, en fait, ceux qui sont à nos côtés font des ponts, des liens et des correspondances entre les mondes. On retrouve cette figure d'archipel. Pour beaucoup de nos contemporains, la figure du centre s'efface. Si je dois prendre un exemple, je dirais en entreprise, l'entretien annuel d'évaluation, qui est un entretien où on est supposé tout se dire, dans un rapport autant monochronique, c'est-à-dire séquentiel et linéaire, pour reprendre les catégories d'Edward Thiel, ça n'a aucun sens pour des jeunes qui ont plusieurs Noëls. Un Noël chez le premier papa, chez le deuxième papa, et chez le grand-père et la grand-mère du premier papa qu'on continue de beaucoup aimer. Ces jeunes font des ponts, des liens et des correspondances entre les mondes. C'est ça, aujourd'hui, en interculturaliste, que nous devons comprendre mieux aussi. Et donc, nous nous sommes attachés longtemps à des valeurs en observant, en fait, ce qu'elles pouvaient être comme référentiel de sens. Vient le temps du conflit de valeurs. du conflit de valeurs, c'est-à-dire du conflit de loyauté. Et ça, c'est quelque chose qui nous passionne. Comment je peux, à un moment donné, en fait, être en désaccord avec la petite voix que je sens monter en moi, à gauche, la tradition familiale de mon papa, à droite, la tradition familiale de ma maman, et dans l'interaction, c'est toujours plus que ce que les autres me disent que je suis. La technologie, le rapport à la famille sont des grilles que l'on doit superposer, des grilles d'observation. À mon avis, à notre avis, les interculturalistes ne se saisissent pas assez de ces grilles. La grille technologique, la grille familiale, la grille de l'histoire de vie d'une personne, par exemple en situation de handicap, visible ou invisible. Et là, c'est l'effet de situation qui va jouer dans l'explication supposée d'un comportement. Il ne s'agit pas de comparer pour nous, d'être dans la différence, il s'agit davantage de comprendre. Ne pas croire que l'on sait à l'avance comment l'autre va fonctionner parce qu'on connaît quelques éléments de sa trajectoire, son origine, son genre, sa situation matrimoniale, et savoir que l'on croit, c'est-à-dire en fait faire un travail de décentration et de distanciation du regard.
À quoi je rattacherais cette belle parole d'un des étudiants de ton
Oui.
du MMI, là, du master de management interculturel, dans lequel tu me fais l'amitié de m'inviter de temps en temps. Je faisais un petit exercice idiot, comme je le fais souvent, pour parler de la culture, essayer de définir ce que c'est que la culture. Et je demande aux étudiants, je sais pas, donnez-moi deux mots ou trois mots que vous associez au mot culture. Alors tout de suite vient la littérature, l'héritage, l'appartenance, enfin, tout ce qu'on veut. Et puis cet étudiant, Louis, à qui je devrais d'ailleurs verser un monceau de royalties parce que j'utilise très souvent cette phrase-là, Louis dit, donne le mot humilité. Alors, je dis, c'est quoi le rapport avec le sujet, le rapport avec la culture? Et il me dit, parce que je pense qu'il n'y a pas de mur culturel que l'humilité ne permette de franchir. Et j'ai trouvé ça absolument génial, parce que dans notre domaine, c'est quoi? Si j'ai pas l'humilité de me dire que je ne sais pas tout, ce que tu viens de dire, Philippe, et si je n'ai pas, que je sais pas tout de l'autre, peut-être que même je ne sais pas tout de moi. Et si je n'ai pas l'humilité après, quand je suis dans un milieu culturel différent du mien, de me faire expliquer des choses par des gens qui, par leur passé familial, etc., connaissent très bien ma culture et celle de l'autre, alors effectivement, j'arrive à rien. Donc cette posture d'humilité, on ne va pas la développer aujourd'hui, mais pour moi, elle est absolument centrale quand on parle d'interculturel. Luciana, peut-être qu'on n'a pas le temps pour ça, mais j'invite tout le monde à regarder dans le fil des commentaires ta version roumaine du pliage des draps, que j'ai trouvé très intéressant. Hein,
Ah, il faut que tu nous en parles alors, Luciana. C'était quoi
Bah,
ta version?
c'est même pas une anecdote. Dans l'église fortifiée qui est à côté de ma ville natale, qui est un monument UNESCO, on garde une cellule où on mettait deux personnes qui voulaient plus être mariées. Et qui n'avait qu'une seule cuillère, une seule assiette, un seul petit lit, et qui devaient vivre ensemble pendant 6 semaines.
Ah oui.
Et si au bout de 6 semaines, ils n'arrivaient pas à vivre ensemble, donc ils pouvaient divorcer. Et puis, l'histoire, enfin, on dit que dans 300 ans, ils n'ont pas eu de divorce. Après, c'est une église fortifiée allemande, donc c'est on va dire, une manière de résoudre, pas de résoudre, mais d'approcher le conflit à l'allemande. Mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais c'est vrai, c'est une chose qui est racontée quand on visite l'église.
J'aime beaucoup ça parce que c'est le lieu qui souvent fait lien. Et en fait, ce qui nous manque dans nos sociétés, c'est l'absence de coexistence physique. Quand on travaille ensemble, on dépasse nos représentations culturelles pour une part. Et donc l'interculturel, c'est mettre en avant la praxis, c'est-à-dire travailler ensemble pour pouvoir dépasser nos antagonismes supposés. Moi, j'aime beaucoup ton anecdote. On va partager une sixième conviction. Qui est ce passage de société, d'organisation hiérarchique pyramidale vers davantage en archipel. Alors, ça nous amène aussi à vous partager avec vous quelques convictions en matière d'organisation, et notamment pour nous, l'interculturel doit aussi essayer d'apprendre des choses intéressantes d'un courant de pensée autour de l'organisation apprenante. Et l'organisation apprenante, elle est intéressante parce qu'elle part de trois conditions. La première, c'est la montée en compétences précisément interculturelles du premier niveau d'encadrement, celui qui est au plus près du terrain. Le deuxième, c'est un travail autour de l'alignement de l'équipe dirigeante entre ce que nous avons tendance à afficher et qui parfois se limite à une incantation. Souvent, une entreprise qui va mettre en avant comme ça dans des brochures ou dans des chartes les notions de coopération, harmonie, diversité, plus elle en parle et moins elle existe dans les couloirs de l'organisation. Ça, c'est le niveau de l'afficher. Ensuite, il y a un deuxième niveau, c'est ce qu'on pratique au nom de ses valeurs. Et les interculturalistes, à mon avis, à notre avis, sont intéressants parce qu'ils ils vont pas prendre pour argent comptant ce que l'on affiche. Ils vont s'intéresser à la manière dont les valeurs sont pratiquées, mais plus encore à la manière dont les valeurs sont ressenties et vécues. Et ça, c'est une pratique professionnelle qui nous semble importante. Une organisation apprenante, c'est une organisation dans laquelle, en fait, les équipes dirigeantes s'attachent à donner la parole au terrain, s'attachent à créer de l'étonnement. Et pour vous donner un exemple très concret, il nous semble très intéressant, au bout de quelques jours ou quelques semaines de présence d'un nouveau collaborateur, de lui proposer de faire une note d'étonnement en images, pas avec des mots, car ça met de côté un certain nombre de nos contemporains, avec des images. Quelles sont les cinq images qui illustrent ton étonnement depuis qu'on a la chance de t'avoir avec? Et on accueille cette parole. Et ensuite, on revient quelques semaines plus tard pour essayer de montrer à cette personne qui a pris un risque en nous disant cela, eh bien qu'on a agi et que son regard a été bénéfique. Donc, une entreprise en archipel, pour nous, on doit la rattacher à la thématique de l'organisation apprenante, dans laquelle on s'enrichit mutuellement. Voilà, j'en dis pas plus. Notre septième conviction, Michel, elle nous amène à traiter, je crois, de la communication.
La septième conviction, elle porte beaucoup sur le thème de l'écart. L'interculturel, il n'est pas que dans la traque des différences. Ça, bien que nous avons peut-être beaucoup d'entre nous, il n'est pas dans l'opposition des contraires, il est dans la recherche d'un commun qui n'est pas un semblable. Alors, vous connaissez, pour beaucoup d'entre vous, j'imagine, le philosophe François Julien, qui raconte des choses absolument passionnantes. Dans un vocabulaire parfois que je trouve un petit peu compliqué, mais bon, parce que je ne suis pas sociologue, mais tout à fait passionnante, et qui nous dit, moi j'aimerais qu'on aborde le divers des cultures, non pas en termes de différence, mais en termes d'écart. Parce qu'au fond, avec la différence, on est dans la distinction, la séparation, le rangement, la classification, la typologie, alors qu'avec l'écart, on est plutôt dans la distance, non pas dans le rangement, mais dans le dérangement, dans le maintien en tension. Dans la différence, au fond, dit-il, écrit-il, la distinction une fois faite, chacun des deux termes oublie l'autre, chacun s'en retourne de son côté. Et il poursuit en disant, l'écart par la distance ouverte entre l'un et l'autre a fait apparaître de l'antre, et cet antre est actif. Alors, ce qui est intéressant, et vous le savez sans doute, que François Julien est un helléniste et un sinologue, passionné par la culture française, c'est-à-dire que le détour par la Chine, l'aide, la Chine traditionnelle en particulier, l'aide à mieux comprendre ce qu'est notre propre culture. Alors évidemment, yin-yang, hein, ces pôles supposés être opposés, qui le sont beaucoup moins qu'on ne le pense, je crois que c'est très important, et pour nous, pour Philippe et moi, c'est une manière d'être nuancés dans nos propos. Parce que dans les formations, dans les grilles d'analyse présentées, etc., ce qu'on adore en France et ailleurs d'ailleurs, c'est les typologies, et en particulier les typologies binaires. C'est ça ou ça. Hein. On est dans le monochrome ou on est dans le polychrome. On est dans le temps linéaire ou dans le temps cyclique. On est par rapport dans les rapports avec la nature, dans des sociétés de domination, dans des sociétés de symbiose. Statut conquis, statut acquis, j'en ai parlé tout à l'heure. S'agissant de l'argent, on est dans des sociétés d'accumulation ou dans des sociétés de redistribution. On est dans des cultures individualistes ou dans des cultures collectivistes, dans des cultures du sacré ou dans des cultures sécularisées, etc., etc. Et ça, c'est dangereux parce que la vérité, la réalité, elle est toujours entre les deux, elle n'est jamais d'un côté ou de l'autre. Et je sais que nous sommes amenés très souvent à dire ben, on est plutôt dans telle ou telle culture, on se rapproche plutôt de telle ou telle autre, plutôt que de dire on est ça ou ça. Parce que ça, c'est vraiment simpliste et dangereux. Et j'en profite pour revenir sur quelque chose que Laurent Bourquin disait dans notre petit groupe tout à l'heure, sur son scepticisme par rapport aux recettes de cuisine. Et je partage ce scepticisme totalement. Les Américains, il y a quelques décennies, s'amusaient à écrire des livres dont le titre était Survival Kit for Overseas Living. Donc, kit de survie. Vous avez un petit peu l'image que ça donne de la différence. Ça peut monter. Bon, moi, je pense qu'il n'y a pas de recette de cuisine, mais je suis convaincu avec. La vertu des interactions, que nous avons à échanger beaucoup de choses, qui est tout un capital d'expérience, de découverte, de doute, de tout ce qu'on veut dans les entreprises, dans les administrations, dans les associations, etc. Mais que le problème, c'est de capitaliser cette expérience, de l'échanger et de la transmettre. Voilà. Alors, François-Julien, je vais peut-être un peu trop vite, mais si ce n'est pas le cas, nous dit par ailleurs qu'il ne faut pas tout confondre. Notamment ne pas confondre l'universel, l'uniforme et le commun. L'universel, c'est, bon, pour certains, quelque chose de logique. On a tous un nez, des oreilles, sauf ceux qui n'ont pas la chance d'en avoir, mais on a un cerveau, etc. Donc, pour les hommes, sur 100. Puis, il y a l'universel credo dont nous avons parlé tout à l'heure. L'uniforme, c'est pas la même chose. L'uniforme, c'est le résultat, au fond, de la mondialisation, du fait que les modes de vie se rapprochent, que ici ou là, on constate que, fait pas tant que ça, mais enfin, qu'on constate un petit peu que les gens s'habillent de la même façon. Puis il y a cet uniforme. Écoutez, vous avez cette expérience, si vous êtes parisien, si vous prenez le métro ou le RER, vous regardez autour de vous 50 personnes. Et 50 téléphones portables. Donc, on est dans une espèce d'uniformisation des modes de vie incontestable, mais qui est le résultat de quelque chose d'économique. Et Julien nous dit, et puis il y a le commun, il y a l'uniforme, il y a l'universel, l'uniforme, et le commun. Et le commun, ça n'est pas le semblable. C'est-à-dire qu'on a tous du commun entre nous. Hein. On ne se ressemble pas, mais on a du commun. Comment est-ce que ça va nous aider à travailler ensemble et comment est-ce que la recherche de ces éléments de référence que nous avons en commun va nous aider à travailler ensemble. Mais le problème, c'est que ce commun, on a souvent du mal à le trouver ou à le construire parce que nous avons du mal à communiquer. Alors évidemment, bon, dans nos interactions, notamment internationales, nos langues sont souvent différentes. Donc voilà, ça peut être un problème, mais en fait, on dit que ça n'en est pas parce qu'il y a toujours des langues pivots. Il y a l'anglais, il y a le français, il y a l'espagnol, on va arriver à se comprendre. Sauf que on oublie souvent que nos interlocuteurs, ils ont une langue maternelle, peut-être même deux langues maternelles, et que faire l'effort d'apprendre un petit peu de cette langue, pas uniquement pour prendre le taxi plus facilement, mais pour essayer de comprendre c'est quoi la grammaire de cette langue. Est-ce qu'il y a des articles? Est-ce que il existe un futur, un passé? Comment ça se passe? Quelle est la place donnée au je et au nous dans la langue? Eh bien, ça explique énormément de choses de la façon d'être et de penser de nos interlocuteurs. Et puis, par ailleurs, on a des sources de malentendus considérables dans la source même de nos messages. Il y a au fond, il y a ce qu'on dit, le contenu de ce qu'on dit. Il y a la manière dont on le dit, la plus ou moins grande emphase qu'on a dans notre façon de parler, etc. Et puis il y a le non-verbal, il y a la gestuelle, il y a les rires, il y a l'intensité de la voix, ce qu'on appelle le paralangage, les expressions faciales, ça veut dire quoi un sourire, le regard, est-ce qu'on regarde, est-ce qu'on ne regarde pas, qu'est-ce que ça veut dire? La kinésique, le sens des gestes, bien entendu. Évidemment, vous vous rappelez de la façon dont en Inde, on réagit à ce que vous dites, hein. On a toujours l'impression que la personne n'est pas d'accord, alors que c'est exactement l'inverse, que si elle fait ça, c'est qu'elle est d'accord. Il y a l'utilisation du temps comme langage aussi. Il y a le sens du silence, hein. On n'aime pas ça, hein, le silence. beaucoup de silence dans nos interactions actuellement. Le paraître, le langage vestimentaire, quelqu'un en a parlé tout à l'heure aussi. Voilà, donc tout ça rend un peu difficile notre manière de communiquer et de trouver le commun qui est entre nous. Et puis, la huitième conviction, c'est l'idée que c'est une notion, c'est l'importance d'une notion qui est celle d'adhérence. Au-delà des stéréotypes, comment est-ce qu'on peut prendre en compte cette notion d'adhérence? Parce que je crois qu'elle permet d'éviter de tomber trop vite dans le piège des simplifications, des stéréotypes qu'on adore, dans lesquels on va classer un individu comme français ou comme tchèque, comme ingénieur ou commerçant, comme croyant ou comme agnostique, puis on va le mettre dans un tiroir, et puis faut il faut qu'il y reste, et puis on est complètement déconcerté, surtout si il faut le mettre dans plusieurs tiroirs, alors on ne sait pas comment faire, etc. Alors, si chacun de nous, d'entre nous, est unique, s'il a son histoire singulière, en fait, il se rattache plus ou moins directement quand même à une culture et une tradition nationale, professionnelle, institutionnelle, générationnelle, religieuse. Il se rattache à cette culture-là. Bourdieu, vous savez, a beaucoup insisté sur la notion d'habitus, cette idée toute bête que, en fait, on est conditionné, nos réflexes sont conditionnés jusqu'à la fin de nos jours, peut-être, par la manière dont nous avons été élevés, les amis que nous avons, etc., le milieu dont nous venons. Ce qui est un petit peu une banalité, sauf que là, Bourdieu est beaucoup moins banal quand il nous dit, et ça je crois que c'est très important, que le propre de l'habitude, c'est de se faire oublier. Autrement dit, même si j'ai tourné le dos brutalement à la position de mes parents par rapport à l'argent, à leurs convictions religieuses, politiques, etc., ben j'aurais quand même, hein, je l'ai oublié, mais j'aurais quand même encore ces réflexes. Donc, chacun d'entre nous vient de quelque part, et on ne peut pas faire fi du patrimoine culturel dont il est porteur, au moins partiellement porteur. Sauf que il est rare que, il se rattache complètement, durablement et sans nuance à ce patrimoine culturel. Par exemple, Philippe et moi, on est français tous les deux, mais on n'est pas que français. Et en même temps, nous le sommes en quelque chose, quelque part, avec tout ce dont ce qualificatif de français est chargé de traditions à la fois judéo-chrétiennes, rationalistes, universalistes, etc. Et ce quelque chose-là, il n'est pas de l'ordre de l'appartenance culturelle pure et simple, ni même de l'adhésion, mais bien des adhérences culturelles. Même si parfois on a une envie furieuse de nous en démarquer, voire de la renier. Et cette adhérence, on l'a, ceux d'entre vous qui ont été de cette génération-là et ont lu Tintin, journal des 7 à 77 ans, se rappellent de l'album dans lequel le capitaine Haddock a une espèce de sparadrap dont elle n'arrive pas à se débarrasser, donc il l'envoie à l'autre bout de l'avion, mais ça lui revient, etc. C'est exactement ça, cette adhérence dont on n'arrive pas à. Donc nous, Philippe et moi, préférons parler non pas d'une appartenance, mais d'une adhérence, de l'existence. On ne peut pas nier d'une certaine adhérence, plus ou moins grande, française, une adhérence qui peut être française, qui peut être une adhérence chrétienne, qui peut être une adhérence musulmane, athée, d'une adhérence de gauche ou d'une adhérence de droite, etc. Adhérence à tel ou tel trait culturel qui ne nous résume pas, mais qui nous colle à la peau quand même si ça nous gêne, même si ça nous embête.
Alors notre neuvième conviction, elle consiste à proposer cette idée. L'interculturel et peut-être même le management interculturel vise à protéger les personnes talentueuses et les profils atypiques. Alors, en t'écoutant là juste un mot, je me souviens dans mes jeunes années en fait d'enquêtes que je menais sur les impatriés. C'est-à-dire des personnes qui venaient de filiales de l'entreprise dans laquelle j'exerçais au siège. Et au cours d'un entretien qui m'a beaucoup marqué, un homme en face de moi, en répondant à mes questions, tout d'un coup sort deux passeports et il me regarde avec un large sourire. Alors tiens, je me dis, on rentre dans une sphère plus intime. Et à gauche, il avait un passeport indien et à droite, il avait un passeport américain. Mais moi, je l'avais enfermé en fait dans le filet d'un stéréotype, je ne le croyais qu'américain. Et il a cette formule qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Il m'a dit en prenant son passeport indien, « Vous voyez, Philippe, L'Inde, pour moi, c'est l'enfance de l'humanité. Et tout d'un coup, il se saisit de son deuxième passeport et il me regarde toujours avec un large sourire. Et en prenant son passeport américain, et il me dit, ça, c'est l'humanité dans l'enfance. Où était-il, ce monsieur ? Quelle était son adhérence ? Elle était nécessairement plurielle, comme tu le dis, Michel. En fait, il naviguait entre plusieurs îlots culturels et il jouait, à un moment donné de la situation, pour non pas conquérir un pouvoir vis-à-vis de moi, non. Mais en tout cas, et on va utiliser ce mot, jouer et prendre du plaisir à jouer de ses adhérences culturelles. Ça, c'est quelque chose aussi qui nous rassemble avec Michel. À un moment donné, l'identité culturelle est plurielle et on a un immense contentement à pouvoir en fait être entre différents pôles et tenter de dire qu'on est à la fois indien et américain et qu'on est plus que ça encore, car en me raccompagnant vers la porte de son bureau, il me dit « Mes enfants sont nés, mon épouse et moi-même, nous avons eu la chance d'avoir nos enfants dans 3 autres pays. Et donc, nous sommes une famille composite », me dit-il. Et je suis ressorti en ayant la farouche passion de mieux comprendre comment on joue et on prend du plaisir à jouer avec ses identités culturelles. Alors, ça nous amène à cette 9e conviction. Si on a évoqué tout à l'heure l'idée qu'on est toujours plus que ce que les autres nous disent que nous sommes, l'interculturel doit être utile, et en organisation notamment. Être utile en organisation, c'est pour nous identifier dans un premier temps les personnes talentueuses. Alors, pour le faire, il y a un grand professeur, un grand sociologue qui s'appelle Norbert Alter et que nous apprécions beaucoup avec Michel. Et si vous ne l'avez pas encore lu, nous vous conseillons 2 ouvrages de Norbert Alter. Le premier, c'est son autobiographie qui s'appelle « Sans place ni classe ».« Sans place ni classe ». C'est son parcours, en fait, où il nous donne comme ça à voir d'un jeune qui est ballotté avec des parents qui sont désaffiliés socialement. Il ne trouve pas sa place. Il n'est pas de culture ouvrière. Il n'est pas dans la classe moyenne. Il est rejeté sans cesse. Norbert Alter, sans place ni classe. C'est un ouvrage magnifique. Et le deuxième, alors c'est une, si vous voulez, c'est une sociologie du milieu, là où émerge aussi une vérité, de l'entre-deux. Et le deuxième livre que nous aimerions vous faire connaître, si vous ne l'avez pas eu dans les mains, c'est un ouvrage qu'on utilise beaucoup avec des comités de direction pour les faire prendre conscience, en fait, de la nécessité d'identifier les personnes talentueuses. Le livre s'appelle « La force de la différence », « La force de la différence », « Itinéraire de patrons atypiques ». Une personne en situation de handicap qui dépasse les effets de stigmatisation et qui va, à un moment donné, faire autrement et faire très bien, conquérir des compétences alors que personne ne l'attendait. La première femme dans un comité uniquement de direction uniquement composé d'hommes et qui parvient non seulement à être perçue comme compétente, mais qui enrichit beaucoup par, son savoir, sa pratique, le regard des autres. Alors, une personne talentueuse, pour nous, elle a 6 caractéristiques. La première, c'est qu'elle est différente. Elle me percute dans mes évidences. C'est quelqu'un qui, par son art du questionnement, me touche à l'essentiel. Elle va donc m'amener à suspendre mon jugement, distancier mon regard, ce que nous avons partagé, mais essayer de tenter d'échapper pour un temps à mes adhérences culturelles, mais pour un temps seulement. Elle est différente. Deuxième idée, une personne talentueuse, ce n'est pas un éternel espoir. C'est quelqu'un qui délivre du résultat. Sinon, on court le risque de favoriser des profils à partir d'une dimension. Tiens, il appartient à cette communauté, on va donc accélérer le recrutement et on va lui donner plus de pouvoir, uniquement parce qu'à un moment donné, il appartient à une population dominée ou qui a souffert dans l'histoire. Non, une personne talentueuse, c'est une personne différente et contributrice. La troisième caractéristique, c'est la générosité. Elle quitte notre association humanitaire, elle quitte notre entreprise, on s'en souvient encore longtemps après. Elle est dans ce que le philosophe Michel Serres appelle l'énergigramme, l'intelligence du lien. Je pourrais dire vraiment, en reprenant tes termes, Michel, l'intelligence de l'autre. Un talent, c'est quelqu'un de différent, c'est quelqu'un de contributeur, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un d'énergivore, car il place la conversation à un bon niveau d'exigence, c'est quelqu'un de chronophage, c'est quelqu'un qui vient te voir et qui a besoin de toi comme d'un aimant à opportunité. Tu es pour elle ou pour lui un carnet d'adresses sur pattes, tu ouvres son horizon. Et le sixième point, c'est ressourçant. Les personnes talentueuses sont des personnes qui nous invitent à penser notre parcours de vie sous un autre angle. D'un mot, ces personnes, et l'interculturel doit, à notre avis, y participer, ces personnes sont souvent mises à mal. Pourquoi? Parce qu'elles augmentent le niveau d'exigence. Et elles renvoient autour d'elles les autres à leur incompétence consciente. Un talent, ça se protège. Ça, c'est quelque chose que nous aimerions aussi exprimer. Un talent, ça se protège d'abord peut-être en lui donnant la possibilité de rencontre. Norbert Alter les appelle des fées, c'est-à-dire des personnes qui, à un moment donné, vont nous aider à faire bifurcation, vont nous aider à nous émanciper de nos lignes d'horizon. Un éducateur, un être aimé, un parent qui est généreux. Et tout d'un coup, on vit un autre destin. Il est évident, en fait, que ces bifurcations, ces itinéraires de vie qui changent en quelque sorte de logique, sont complètement dans le champ de l'interculturel. Et c'est un point qui nous anime avec Michel très souvent. Les équipes dirigeantes, bien souvent, en fait, si elles identifient les personnes talentueuses, ne les protègent pas. Elles ne les protègent pas du risque de bouc émissaire. Et c'est peut-être aussi un angle qui a manqué, ça, dans les analyses culturelles ou interculturelles. L'angle de la violence, de la mise à mal de profils atypiques, de la violence physique ou symbolique. Alors là-dessus, évidemment, l'homme, ou plutôt l'auteur qui nous influence beaucoup, c'est René Girard, à travers deux ouvrages, Le bouc émissaire, qui est un classique, et puis son ouvrage La violence et le sacré, pardonnez-moi, La violence et le sacré. Et on a mis à mal, en quelque sorte, cette figure de la différence, de l'atypisme. On a dépassé notre violence mutuelle, notre rivalité, et on continue, en fait, de se rassembler et d'être dans le mimétisme et l'entre-soi. Et donc, d'un mot, un talent, ça se protège en lui donnant plus de temps qu'aux autres. Et ça, c'est aussi une dimension qui nous semble intéressante à partager toutes et tous ensemble. L'interculturel, ce n'est pas l'égalitarisme. L'égalitarisme, c'est le risque permanent du nivellement. On donne la même chose à chacun pour avoir une petite paix sociale et pouvoir continuer à être ce que nous sommes, ou avoir l'impression de perpétuer ce que nous sommes. Non. Pour nous, l'interculturel et la posture interculturelle souhaitable, prenons parti, c'est l'équité. Et nous vous en proposons une définition. Identifier et assumer dans nos équipes des différences qui profitent à tous. Identifier et assumer dans nos équipes des différences qui profitent à tous. Il nous semble que les interculturalistes peuvent participer d'une politique de l'émancipation qui consiste à ne pas récompenser celles et ceux que nous appelons des PH neutres et qui ressemblent immanquablement aux chefs, mais qui fassent la part belle aux profils atypiques et à celles et ceux qui, dans leur histoire de vie, ont un CV à trous, n'ont pas la bonne couleur de peau ou pas la bonne adresse postale. La dixième conviction, et ça sera une invitation à continuer le dialogue. Comment peut-on faire, c'est une question, comment peut-on faire pour étendre le champ de l'interculturel et dépasser les simplifications? Alors on a une première piste, et puis ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de continuer d'échanger avec vous. Il y a quatre niveaux pour nous quand on parle du champ de l'interculturel, particulièrement dans la vie des organisations. Le premier, nous le rappelons, c'est la lutte contre les discriminations. Un interculturaliste, c'est quelqu'un qui doit saisir de compétences juridiques. C'est quelqu'un qui doit avoir, je dirais, des outils d'analyse de nos biais de perception, de la chaîne de discrimination autour des stéréotypes, des préjugés, de nos adhérences. Ça, c'est le premier niveau, c'est la lutte contre les discriminations. Il y a un deuxième niveau où un consultant notamment peut être utile, c'est la gestion des équipes diversifiées. Comment nous favorisons la coopération et la confiance dans des équipes qui se sont diversifiées du point de vue des métiers, des âges, des trajectoires de vie? Ça, c'est le deuxième niveau. La diversité, pour nous d'ailleurs, est un terme un peu flou, abstrait et peut-être même inutile. La diversité, c'est le caractère de ce qui est pluriel. Ce n'est donc pas un idéal. L'idéal, c'est l'équité. Le troisième niveau, et évidemment, il y a un lien entre ces quatre niveaux. Le troisième niveau, c'est le travail de Michel, notamment depuis longtemps. C'est ce que vous allez retrouver dans son livre Le Culturoscope. Ce sont les grandes variables de différenciation culturelle qui influencent, mais qui ne conditionnent pas totalement nos comportements. Et là-dessus, Michel, tu as été éloquent à travers le temps, le statut, l'espace. Ça, c'est le troisième niveau. Le quatrième, c'est l'entreprise apprenante. Comment on parvient à monter en compétences interculturelles nos équipes? Comment on parvient à faire qu'une équipe de direction s'aligne vraiment entre ce qu'elle affiche, ce qu'elle fait et ce que les gens ressentent? Et puis le troisième point, c'est la protection, je viens de l'évoquer, la protection des personnes talentueuses et des profils atypiques. On n'est évidemment pas talent pour la vie, ça serait faire de l'essentialisme. On est talent si l'on sait créer des espaces apprenants. Et l'interculturel a à voir avec ces quatre niveaux. La lutte contre les discriminations, la gestion des équipes diversifiées, la compréhension de nos variables culturelles de comportement et de pensée, et cet horizon de l'organisation apprenante.